Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Daniel Andler. Daniel, tu es philosophe.
Oui.
Avec une formation initiale plutôt de mathématicien logicien.
Tout à fait. Mathématicien et logicien, c'était ma spécialité, effectivement. Mais je ne suis pas un logicien à l'américaine, c'est-à-dire quelqu'un qui ignore le reste des maths. Moi, j'ai fait comme tout le monde de l'algèbre, de la géométrie, de l'analyse de Fourier, tout ça.
Aujourd'hui, nous allons discuter d'un thème général qui est la vérité. On vit dans une période très complexe où on entend des tas de vérités contradictoires. On a des Américains qui nous disent qu'il y a des faits alternatifs, qu'on ne sait plus trop ce que c'est que la vérité. Donc on a un peu besoin de tes lumières pour nous expliquer un peu ce que c'est que la vérité. Alors j'ai une proposition à te faire.
Oui.
Je vais te faire écouter un tout petit extrait d'un film qui date de 2005, qui s'appelle Galilée ou l'amour de Dieu. Dans le rôle de Galilée, Claude Rich, et dans le rôle du pape, Urbain, je ne sais pas combien.
6, je crois, ou 7. Voilà.
6, je crois, oui. Claude Rich. Eh bien, on s'est trompé tous les deux, ça n'est ni Urbain 7, ni Urbain 6. C'est Urbain 8, pape de 1623 à 1644. Alors écoute, et après on commente.
La vérité n'est pas une mince affaire, Galilée. Nous devons prendre nos précautions. Soyez prudent.
Oui. Pour vous parler franchement, j'ai du mal à admettre que la physique ne corresponde pas à la réalité. Ou qu'il y ait deux vérités, l'une pour la science, l'autre pour la croyance. Comment la vérité pourrait-elle être deux ?
Voilà. Est-ce que la vérité peut être deux ?
Oh, c'est magnifique. C'est une citation. Tu ne pouvais pas même mieux choisir. D'autant plus que Galilée parle de la correspondance. Et donc, s'il y a une réalité et une correspondance, il y a donc une vérité. Il y a une fausse correspondance où ce qui est dit, ce qui est affirmé ne correspond pas à un fait, à savoir par exemple que la Terre tourne autour du Soleil plutôt que l'inverse. Et puis, il y en a une qui ne correspond pas au fait. C'est comme si je disais que tu es debout en ce moment, alors que toi, Étienne, tu es assis. Et le fait est que l'objet Étienne Gis appartient au prédicat être assis. Voilà. Donc ça, c'est la notion élémentaire de la vérité comme correspondance au fait, adéquation au fait. Il y a deux problèmes complètement différents. Le premier, c'est est-ce que nous pouvons expliquer cette notion de correspondance au fait ? Et au-delà, est-ce que nous pouvons définir, caractériser, éclairer la notion de vérité dans l'abstrait ? Ça, c'est une classe de problèmes qui intéresse surtout les philosophes et pas tellement les autres. Mais le fait que les philosophes soient par moments hésitants et pas d'accord entre eux sur la manière dont on peut expliquer ou expliciter la notion de vérité constitue un point sur lequel s'appuient des gens qui, pour des raisons honnêtes ou malhonnêtes, disent « mais alors, puisque au fond nous ne savons pas très bien ce qu'est la vérité, les philosophes eux-mêmes ne le savent pas », à ce moment-là, donc, on peut y aller et proposer toutes sortes de théories hétérodoxes de la vérité, notamment le fait qu'il peut y avoir deux vérités.
Ce cette vérité qui est adéquation aux faits, c'est un peu un héritage de la Grèce antique, de Platon, pour simplifier.
Tout à fait, oui, oui. C'est une très vieille affaire et elle a été ensuite frappée un peu de discrédit, puisque la question de la correspondance à la vérité, c'est quoi exactement la correspondance? L'exemple classique, n'est-ce pas, c'est le chat est sur le paillasson. Donc le chat est sur le paillasson, c'est vrai ou pas?
Alors tout de suite, on va te faire la remarque, mais le chat vivant et mort en même temps.
Voilà, alors il y a le chat qui est vivant et mort, et il y a le fait que si sa patte dépasse d'un millimètre du paillasson, est-ce qu'il est vraiment sur le paillasson? Et si ce n'est pas un paillasson au sens où on peut l'acheter au BHV, mais mettons une serviette ou un tapis de bain plié en deux, est-ce qu'il compte quand même comme un paillasson? Donc on entre dans l'autre classe de problème, qui est une classe de problèmes gigantesques qui se posent dans le langage courant, dans l'interprétation des faits quotidiens, dans les disputes au sein des ménages, et en physique, et en politique. Et comment ? C'est, laissons de côté la question de savoir ce qu'est la vérité dans l'absolu, cette proposition-ci, ou cette théorie-ci, ou cette version-ci des faits, est-elle vraie ou pas ? Et là, ça devient effectivement très difficile. Par exemple, il y a des tas de choses dont on peut se dire qu'elles ont, comme disent les logiciens et les philosophes, une valeur de vérité. Elles sont soit fausses, soit vraies. Il y a deux valeurs de vérité, soit fausses, soit vraies. Oui, mais par exemple, moi, je n'ai pas beaucoup de cheveux. Est-ce que je suis complètement chauve? Est-ce que je suis complètement chevelu? Ni l'un ni l'autre, je suis entre les deux. Combien est-ce que j'ai de cheveux en ce moment? Probablement, quelqu'un de très patient pourrait compter le nombre de cheveux que j'ai. Il en trouverait, je ne sais pas, 83 520.
Peut-être un peu moins.
Peut-être
c'est
un peu moins. Tu ne cherches pas à me vexer, Étienne. Et donc, c'est un fait, mais c'est un fait qu'en pratique, on ne peut pas constater, parce que personne n'a la patience. Et puis surtout, il y a 10 ans et il y a 20 ans, j'en avais plus. Le fait est que j'avais un certain nombre donné de cheveux il y a 20 ans. Mais cette vérité est devenue inaccessible. Alors, il y a un certain nombre de situations dans lesquelles la vérité est inaccessible, où le prédicat est vague, où on est... Si je te dis, par exemple, il n'y a pas de licorne, c'est quoi le fait en question? C'est compliqué. Il n'y a pas de licorne, ou les licornes n'existent pas. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont impossibles biologiquement? Est-ce que ça signifie qu'on ne les a jamais trouvées et qu'on pourrait peut-être les trouver un de ces jours? Donc, il faut se mettre d'accord sur la signification des termes qui entrent dans la proposition énoncée. Et en réalité, la plupart des controverses et des glissements, parfois il y a des glissements honnêtes, parfois il y a des glissements malhonnêtes, portent sur la signification des termes. Si je te dis qu'aujourd'hui la démocratie est menacée dans le monde, le mot démocratie, c'est pas très clair. Menacée, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est évidemment une question d'appréciation politique générale, comparative à ce que ça a pu être l'état de la démocratie un petit peu avant, à ce que nous imaginons qu'il ne veut pas être demain, mais nous n'avons pas vraiment une prise directe sur demain. Demain, ce n'est pas un ensemble de faits attestés.
On peut aussi ajouter le fait que cette adéquation aux faits présuppose l'existence d'un monde extérieur objectif, qui lui aussi interpelle les philosophes comme les mathématiciens d'ailleurs.
Exactement, oui, oui, tout à fait. La notion de vérité est attachée d'un côté à la question du sens des termes, le sens du terme paillasson, chaud, menacé, etc. Et puis d'un autre côté, à la question de l'objectivité. Est-ce qu'il existe un monde extérieur qui est d'une certaine manière entièrement défini tel qu'il est, même si nous ne savons pas, nous, comment il est entièrement? Nous sommes loin de savoir tout ce qu'il y aurait à savoir sur le monde. Mais est-ce que ça présuppose quelque chose d'autre? C'est-à-dire peut-être une possible convergence de nos avis éclairés sur l'état du monde, auquel cas l'objectivité est rabattue sur la vérité, et dans l'autre configuration, c'est plutôt la vérité qui est rabattue sur l'objectivité.
Alors, je vais t'interpeller, monsieur le philosophe. Ton discours ouvre la porte aux faits alternatifs, aux abominations qu'on entend dans la bouche de Trump, par exemple. Tu dis des choses qui ne sont pas faciles à expliquer au public général. Comment est-ce qu'on fait, en étant philosophe, pour expliquer qu'on ne peut pas dire n'importe quoi.
Alors, une manière, c'est de proposer aux gens des exemples assez simples. Supposons, quelqu'un me dit, fais alternatif, etc. Il me dit, mais je suis très inquiet parce que mon fils est tout à coup devenu aveugle. Il a perdu la vue. On ne comprend pas très bien pourquoi. Je vais lui demander, mais tu vas confier ton fils à qui ? À quelqu'un qui connaît les neurosciences, qui connaît le système visuel, donc qui a sur le système visuel des connaissances objectives auxquelles tu peux faire confiance, ou est-ce que tu vas aller voir n'importe qui, un ministre de Trump, par exemple ? Alors, il est vrai qu'il peut « bite the bullet », comme on dit en anglais, c'est-à-dire aller jusqu'au bout, et « si, moi, je connais un rebouteux magnifique qui va m'arranger ça d'une minute à l'autre. » Et certains le font. Et là, mon exemple n'est pas bon, il faut en trouver un autre. Il faut trouver une situation très simple dans laquelle il est obligé de reconnaître qu'il n'y a pas deux manières de voir les choses. Ou bien, par exemple, le voisin qui a fait la fête toute la nuit et qui l'a empêché de dormir, ou bien c'est vrai qu'il a fait la fête toute la nuit et qu'il l'a empêché de dormir, ou bien c'est faux. Et le gars ne va pas du tout être d'accord pour penser que non, en réalité, il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu d'empêchement de dormir, etc.
Est-ce que tu penses que les philosophes, en général, en particulier en France, font le travail suffisant pour expliquer ce genre de choses à la population générale ?
Alors ça, c'est une très bonne question. Toutes tes questions sont bonnes, Étienne.
Ça, je vais le garder dans moi. Rassure-toi, ça sera dans le podcast.
D'accord. Je dirais que dans l'ensemble, ça n'est pas le cas. Dans l'ensemble, ça n'est pas le cas pour deux raisons. D'abord, les philosophes finissent par se spécialiser et s'enfoncer dans des discussions très difficiles. Par exemple, sur le concept de vérité, on n'a pas abordé. Il existe 5 ou 6 grandes théories philosophiques de la vérité. Et les philosophes ne sont pas d'accord et échangent des arguments, des contre-arguments, exemple contre exemple, etc. Et c'est un peu leur métier, en quelque sorte. Et ils ont un peu du mal à sortir de leur métier. Alors, je dirais...
Comme beaucoup de
spécialistes, de manière générale, ils ont un peu perdu le contact. Alors, il s'y ajoute qu'il y a en France, je dirais, un attachement à certaines formes de façons de philosopher qui, disons, ont tendance à être relativement difficiles à pénétrer. Alors, je ne me prononce pas sur la valeur intrinsèque, le jugement qu'on peut porter sur ce genre de...
Difficile à communiquer, tu vois.
Voilà.
Dire.
Ouais. Mais le fait est que ça repose sur un vocabulaire extrêmement spécialisé, extrêmement particulier. Disons que la clarté n'est pas, disons, la vertu principale.
Et on me dit que c'est plus clair en allemand.
Oui, c'est ça. Bien entendu, il y a une grande division entre philosophie dite continentale, celle qu'on a tendance à pratiquer dans les pays, notamment latins, en Allemagne aussi, etc. Et la philosophie analytique est plus centrée sur la langue anglaise. Mais en réalité, c'est une opposition trop crue. En fait, il y a, comme disait Jacques Bouvresse, par exemple, il y a deux sortes de philosophes. Il y a ceux qui sont clairs et ceux qui sont obscurs. Voilà. Alors, il se trouve qu'un certain type d'enquête philosophique tend à produire des discours plus obscurs, moins communicables, et d'autres davantage, au contraire, se prêtent à une explication. Ce qui est très frappant, c'est que il y a dans la jeune génération des étudiants que nous avons formés, disons, et qui ont maintenant 25, 30, 30 ans, 35 ans, et qui s'attachent beaucoup à faire de la philosophie pour le grand public. Il y a énormément d'initiatives qui sont prises par des jeunes philosophes, certains j'en connais, d'autres, la plupart, je ne les connais pas.
Y compris des youtubeurs.
Et beaucoup, beaucoup de youtubeurs et de podcasteurs et toutes ces choses-là. Et il faut un véritable effort qui s'inscrit un peu dans la tradition de la philosophie générale au sens de l'épreuve de philosophie de terminale. Je trouve que c'est une bonne chose. On sait aussi que les cafés philo, ça marche très bien. Et là, on fait de la philosophie, en gros, pour le grand public.
deux questions. La première, tu réponds par oui ou par non. Est-ce que Galilée avait raison? Il n'y a pas de vérité.
Oui.
Très bien. Et la deuxième question, c'est une question que je pose à tout le monde dans mes podcasts. Est-ce que tu aimes la musique? Est-ce que la musique importe dans ta vie? Et si oui, quelle musique, selon toi, illustrerait le concept de vérité?
Alors, la première sous-partie de la question est très facile. Il se trouve que la musique compte beaucoup pour moi, comme pour énormément de gens, mais enfin, beaucoup, je dirais. Je suis plus un musical qu'un amateur de peinture, encore que ça aussi. Mais enfin, la musique, bien sûr, me touche de très près. Et ce qui illustrerait le plus, je pense que c'est très personnel. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux de musique qu'on connaît tellement bien que quand on les écoute, on les réécoute pour la millième fois, il y a une sorte d'adéquation de ce qu'on entend à ce qu'on a en mémoire. On est rassuré. Alors pour moi, ce serait le quintet pour clarinette de Mozart.
Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Daniel. Je vais laisser le fait que tu dis que mes questions sont bonnes. Non, mais merci beaucoup.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.